Good Morning Business, le débrief de la matinale.
Voilà ce qu'on a pu entendre hier lors de l'Assemblée Générale de Shell. Va en enfer, Shell. C'est ce qu'ont chanté les activistes du climat. Plutôt bien d'ailleurs, parce que c'est plutôt une chorale sympathique à entendre. Est-ce que c'est Bennaouda Abdedaïm ce qui va se passer dans toutes les Assemblées Générales désormais?
Ça va être une tendance lourde, effectivement. Lorsque vous entendez que le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, qui, rappelons-le, a été fondée après le premier choc pétrolier dans les années 70 par les États de l'OCDE pour réclamer une augmentation de la production pétrolière de la part des pays de l'OPEP, donne des interviews à tour de bras pour dénoncer les compagnies pétrolières qui, dit-il, ont un manque de cohérence par rapport à leurs objectifs de CO2 zéro, qui, dit-il, sont en contradiction avec l'histoire, on peut, de ce point de vue-là, tirer la conclusion que, y compris les militants de l'écologie ou les militants d'une autre société, peuvent s'appuyer sur, de ce point de vue-là, des considérations tout à fait officielles que rédige l'Agence internationale de l'énergie.
Vous parlez d'écologie, mais on voit aux États-Unis, on en a parlé tout à l'heure, que tous les thèmes, notamment sociétaux, politique s'invite dans les AG, dans les États où l'avortement est interdit, les actionnaires, certains actionnaires demandent que les entreprises prennent position. Il y a tout le débat aussi sur la discrimination, etc. Au fond, ça devient une sorte d'agora politique et public, les assemblées générales.
Exactement. Antoine Lauré-Gaudry, à 7h30, l'expliquait très bien. Ça devient non seulement un objet de politique intérieure, mais aussi de politique étrangère. Du point de vue de la politique intérieure, lorsqu'on voit qu'un potentiel président des États-Unis en 2024, Ron DeSantis, le républicain, est entré en guerre contre une valeur du Dow Jones 30, en l'occurrence Walt Disney, parce que Walt Disney reproche au gouverneur une loi que Disney juge LGBT-phobe, et que en représailles, on entend Ron DeSantis cloué au pilori Disney. Lorsque vous voyez que BlackRock, décidant pour des intérêts qui lui sont propres d'avoir un partenariat avec des banques chinoises pour écouler des produits de retraite dans deux grandes métropoles chinoises, et là aussi cloué au pilori non seulement par une organisation de consommateurs américains mais par une dizaine de gouverneurs d'État américains en expliquant qu'ils vont à l'encontre des objectifs essentiels de la politique étrangère américaine, on voit qu'effectivement ces grands noms de la finance, de l'industrie, des produits de consommation, de tout simplement des loisirs américains sont pris en tenaille en fonction de groupes de pression.
C'est logique, on attend beaucoup de l'entreprise, Carole.
Mais on attend beaucoup de l'entreprise. L'entreprise s'invite vraiment chez les gens au quotidien. C'est là où on passe une grande partie de notre temps. Mais ce que tu dis est intéressant. Et en même temps, ça va plus loin. C'est-à-dire que la vraie conséquence, bon, aller faire des petites manifs aux âgés, c'est très mignon, mais ça a vraiment littéralement peu d'impact, à part un impact en termes de communication. Le véritable impact, et tu en as parlé, c'est que justement, comme DeSantis et Disney se sont bien mis sur la tronche, derrière, Disney a fermé son campus en Floride et a dit, tu sais quoi, j'enlève mon campus Disney de la Floride. Alors, ils vont pas enlever le parc, parce que le parc est immense, mais ils vont se désengager au fur et à mesure de la Floride. Et c'est plus sur ce genre de choses qu'on va sentir l'impact. On voit un impact dans ce cas-là. Alors, la loi n'est pas considérée comme transphobe. Elle est transphobe, il faut dire les choses. C'est une loi qui est transphobe. Donc, c'est comme ça, c'est une chose. Et donc, en conséquence, Disney protège la communauté LGBT en disant, je vais fermer mon campus. Vous avez l'effet inverse avec Budweiser. Budweiser, c'est pour ça que finalement faire des petites manifs devant les AG c'est bien, mais ça n'a pas l'impact que ça devrait avoir. Budweiser, il y a un mois et demi ou deux mois, a fait une grande campagne avec une influenceuse qui est une femme trans pour promouvoir la marque Budweiser. Sauf que derrière, énorme backlash de la communauté Budweiser. Il faut quand même dire les choses, Budweiser c'est une bière, qui est bue par des tonnes d'hommes blancs qui sont pas très forcément woke, et il y a eu une baisse de revenus de 1%. Ça c'est tangible. Budweiser, quand ils perdent 1% de leurs revenus sur un mois à cause d'une mauvaise campagne, d'un seul coup, ils se posent la question. Et on se retrouve avec une balance où vous avez des entreprises qui vont justement vouloir défendre des agendas qui sont très alignés avec ce que fait l'entreprise. Disney a réussi. On a la petite sirène qui sort aujourd'hui avec une actrice noire qui joue la petite sirène. Donc, Disney a un agenda qui est cohérent, Budweiser a un agenda qui n'est pas cohérent et se fait punir par sa communauté.
Sébastien Bisse.
Oui, peut-être deux commentaires rapides. Le premier, c'est que le fait qu'on redemande aux entreprises un rôle politique interroge évidemment sur l'impuissance de la politique.
Ça, c'est vrai.
À agir sur ces grands sujets. Donc il y a peut-être une redécouverte de la part de la société que l'entreprise, elle est au cœur en fait des transformations. Et c'est elle qui est le cœur de la vie des gens. Ce qui pose une autre question, c'est-à-dire aussi que pour cette jeunesse un peu militante sur un certain nombre de sujets, il faut saluer cet engagement. Il faut peut-être leur faire comprendre que plutôt que d'aller pantoufler dans des ONG ou dans des associations,
il faut
peut-être
dans
s'engager dans une entreprise. Je le dis un peu de manière
c'est toujours la question du cheval de Troie. Hein.
Oui, non, mais je pense que ça veut dire aussi... Mais j'y vois une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ces jeunes redécouvrent que c'est dans l'entreprise que ça peut se transformer. On a eu toute une séquence où beaucoup de jeunes rêvaient en fait d'être militants dans des associations. C'est très bien et je suis le premier à défendre ce type de choses. Simplement, aller travailler dans une entreprise, c'est d'autres réalités, c'est d'autres combinaisons de problématiques à rencontrer entre des aspects économiques, sociétaux, des engagements de court terme et de long terme. Et peut-être on est en train de réassister à une retrouvaille entre une génération qui avait oublié que l'entreprise était au centre et finalement ces entreprises qui ont besoin aussi de renouveler leurs effectifs et qui vont devoir accepter d'avoir en leur sein des ressources humaines qui sont peut-être un peu plus militantes que les ressources humaines précédentes.
Carole, vous faites partie de cette génération d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui justement mettent certaines de ces valeurs extra-financières au cœur de leur stratégie. Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce qu'au bout du compte, à un moment donné, vos actionnaires, vos investisseurs vont pas vous dire « Oui, mais alors c'est quoi ta marge et c'est quoi ton profit net ?» Est-ce que, au fond... Est-ce que la finalité, c'est quand même pas, mais peut-être en étant justement, en prenant en compte ces valeurs, d'avoir des bons résultats?
Moi, c'est ce que j'ai toujours défendu. En fait, il ne faut pas croire que faire une entreprise à impact, c'est faire une association glorifiée. Ouais, nous, on a toujours dit, on fait des bons produits de la bonne manière, en traitant bien nos salariés, en traitant bien nos partenaires. Et la dernière partie est hyper importante, en étant une bonne opération capitalistique. C'est hyper important que les gens entendent, notamment en France, qui est un pays où on a quand même des valeurs sociales qui sont très très fortes. Le capitalisme n'est pas là pour faire que des hommes blancs de plus de 50 ans aient des yachts sur la Méditerranée. Le capitalisme est là pour faire grandir et avancer une économie et la redistribution des recherches qui peut-être n'a pas forcément eu assez lieu dans certaines grandes entreprises. On parle beaucoup notamment des dividendes de Total, ce genre de choses. C'est ça qui est important pour les gens. C'est bien d'avoir des entreprises, c'est bien de faire de l'argent, c'est pas une honte. Par contre, et là les gens sont de plus en plus sensibles à ça, faut le faire de la bonne manière. Mais faut pas non plus se tromper de combat. Je pense qu'en effet, tu as raison. Faire une manifestation, c'est bien, mais il y a beaucoup de gens qui manifestent depuis leur canapé sur Twitter ou avec une petite pancarte. L'engagement, il est plus fort. Je vais vous dire un truc, si les gens veulent vraiment dire à Shell go to hell, c'est pas compliqué. Sur l'autoroute, ils voient une station Shell, ils n'y vont pas. Ouais. Et ça fait l'effet du pétrole.
Oui, ils ne prennent pas leur voiture. On disait que le week-end dernier, il y avait 900 km de bouchons en France pour le retour du week-end de la Toussaint. Ils ont pas pris le train.
Si tous ces gens ne s'étaient pas arrêtés dans une station Shell aurait eu un impact beaucoup plus clair qu'avoir une quinzaine d'étudiants qui disent Shell go to hell devant une assemblée générale.
Benaouda ou Sébastien?
Non, peut-être juste rappeler, pour le dire autrement, qu'en effet, une entreprise ne peut avoir des engagements de long terme de transition et investir sur ces dynamiques de futur que si elle a l'air insolide et économiquement à court terme. Et donc, le court terme économique de performance permet d'avoir de la robustesse sur des engagements à long terme. Sinon, les engagements, en fait, ne sont pas menés dans la durée. Et ces engagements et ces combats sont tellement complexes qu'il faut pouvoir du temps pour les mettre en œuvre et les réussir.
La RSE, Benaouda, ça se vend aussi. C'est un produit. Ça permet aux entreprises d'avoir une bonne image de marque.
Parfaitement. Et ensuite, ça permet aussi d'occulter un fait majeur, c'est que dans un certain nombre de grands secteurs, que ce soit la finance, les hydrocarbures, etc., je ne vais pas tous vous les faire, vous êtes extrêmement dépendants, somme toute, de la politique étrangère de votre État. BlackRock, c'est les États-Unis, Total Energy, c'est la France, etc. Et que vous devez vous soumettre d'une manière ou d'une autre, et encore plus aujourd'hui, à la ligne de politique étrangère de votre pays. ASML, qui est l'entreprise technologique la plus importante d'Europe et des Pays-Bas, a tenté de résister à un moment donné dans la relation avec la Chine, mais somme toute s'est plié à ce que lui a dit son gouvernement, qui lui-même s'est plié à ce que lui a dit le gouvernement des États-Unis. Donc de ce point de vue-là, penser que ça se décide en assemblée générale, en manifestation, ou à ce qu'un certain nombre d'étudiants de grandes écoles de commerce choisissent telle ou telle entreprise pour aller travailler, c'est aussi d'une certaine façon une certaine naïveté. Ce qui compte, ce sont les grandes lignes de force dans les relations internationales, d'un strict point de vue de la géopolitique.
Alors on va parler aussi de géopolitique avec ce deuxième sujet du débrief, le prix des matières premières agricoles, de l'énergie, des météorites. Il y a le rapport du Cyclope dont vous êtes contributeur d'ailleurs. Sébastien Abi. On le décrypte avec vous, Léo Dubas.
C'est d'abord le cours du gaz qui a animé l'année 2022 sur fond de guerre en Ukraine. Ses prix se sont envolés, mais après un hiver clément, ils ont rechuté. Ils touchent même un plus bas en 2 ans à la mi-mai. Une tendance baissière qui devrait se poursuivre en 2023, d'après le rapport. Au-delà du gaz, c'est aussi l'ensemble du marché des matières premières agricoles qui s'est affolé en 2022. Depuis un an et demi, les prix du cacao ont grimpé de 20%, une hausse supérieure à 40% même pour les prix du sucre. Du côté du maïs, la décrue est enclenchée alors que son prix avait aussi augmenté de 40% en 2022. Mais c'est sans doute le marché du blé qui a été le plus affecté. Son prix a grimpé de 80% au cours de l'année dernière. L'accord signé entre l'Ukraine et la Russie pour débloquer les exportations a depuis largement détendu les cours. L'heure est donc à la détente, mais ce n'est que le calme avant la tempête. C'est ce qu'affirment les auteurs du rapport. Cette année, c'est particulièrement le prix du riz qui inquiète, la faute à des quantités disponibles à l'export de plus en plus faibles. L'Inde, par exemple, devrait délivrer 5 millions de tonnes en moins sur le marché mondial cette année. L'autre nuage à l'horizon se situe sur le marché des métaux, en particulier celui du cuivre, mis sous tension par la transition énergétique en cours. La demande va donc s'emballer, et même si les stocks importants ont récemment fait baisser les prix, les projets d'extraction manquent et sa production est très concentrée, en particulier au Chili et au Pérou, deux pays instables qui pèsent aujourd'hui 40% de la production mondiale de cuivre.
Sur les matières premières, il ne faut pas se réjouir trop tôt. C'est ce que nous dit le rapport Cyclope. D'ailleurs, vous avez mis quand même, Sébastien Abi, je ne sais pas si vous avez participé à Joshua, les 4 cavaliers de l'apocalypse en couverture du 37e rapport. Ce qui est quand même l'objectif. Je ne sais pas si c'est de faire peur pour qu'on soit bien conscient qu'on est dans une espèce de creux de mou, mais que ça peut repartir à tout moment. Il faut se préparer.
Ouais, écoutez, moi je pense que dans ce rapport, l'idée c'est de mettre l'accent sur le fait qu'il y a des guerres, le fait qu'il y a des pandémies, le fait qu'il y ait des problèmes climatiques qui s'accentuent, le fait que l'alimentation elle est finalement inégalement répartie sur la planète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la production agricole est très très inégalement répartie sur la planète parce que la géographie est ainsi faite et les masses démographiques ne sont plus les mêmes qu'il y a 50 ans. Donc tout un tas de déséquilibres structurels s'intensifient. Bah, ces quatre facteurs-là, ces quatre chevaliers de l'apocalypse, comme le rapport Cyclope le montre, en fait, il y a une partie du monde qui les connaît très bien. En fait, c'est juste l'Europe qui est en train de redécouvrir un inconfort stratégique. Elle redécouvre qu'on peut avoir des guerres, qu'on peut avoir des problèmes de pandémie, type Covid ou pandémie type grippe aviaire sur la santé animale qui s'est internationalisée, ce qui fait qu'on a des risques énormes en termes de santé animale et qui sont des zoonoses. La grippe aviaire est une zoonose, elle est transmissible à l'homme. L'inquiétude est croissante autour de ce sujet. Le Brésil a ses premiers cas de volailles touchées. Donc, voilà, il y a des incertitudes que le monde entier connaît structurellement. Et nous, en Europe, nous avons eu une longue page d'accalmie, je dirais, ou de myopie, parce qu'on n'a pas voulu regarder les maux ou transformation de la planète. Et nous avons besoin, nous, Européens, de comprendre que le monde n'est plus du tout ce qu'il était et que nous-mêmes, Européens, allons rentrer dans une phase croissante d'inconfort stratégique, en ce sens où ce qui est essentiel coûte cher. Et donc l'alimentation, l'énergie dont nous avons besoin a un coût. Et pendant trop longtemps, on a pensé qu'elle était gratuite et inévitablement disponible.
Carole Juge-Lewellyn, vous, les entreprises, vous êtes prêts à affronter tous ces cavaliers de l'apocalypse? Après, on a eu effectivement la pandémie que vous avez dû subir et affronter. Est-ce que tout ce qu'on vous annonce là, c'est tenable pour une entreprise?
C'est tenable parce que de toute façon, on a tenu jusque-là. On s'est pris à cause du Covid et après à cause de la guerre des hausses de matières premières qui étaient déjà absolument énormes. Le vrai problème, c'est qu'en fait, dans la période de baisse, personne ne baisse. C'est-à-dire que dans la période de hausse, on n'a pas pu hausser nos prix, on a même trouvé le moyen de baisser nos prix. Là où dans la période de baisse, au final, il y a aucun de mes fabricants qui m'annonce une quelconque baisse. Et personne ne va m'annoncer de baisse. Il va y avoir un effet de rattrapage qui va être extrêmement désagréable. Finalement, ce petit moment où les taux vont baisser, ça va baisser de leur côté, ils ne vont pas absorber cette baisse. Et par contre, quand ça va repartir, on aura un effet de décalage, puisque comme ça va repartir, ils vont attendre que ça dépasse le niveau auquel on est monté. montée précédemment pour remettre un petit kicker. Mais c'est toujours ça qui est un peu dommage. C'est qu'au final, quand il y a une hausse, on la prend, et quand il y a une baisse, on la prend pas. Donc il y a une forme d'injustice. Ouais. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire comme arbitrage? C'est-à-dire que on peut pas non plus en vouloir aux entreprises et aux fournisseurs, aux différents partenaires, de se dire on a souffert, ils ont puisé dans leurs réserves pour réussir à absorber quelque chose. Donc c'est compliqué et c'est difficile de toujours systématiquement tirer sur la corde de l'État en disant s'il vous plaît, régulez ça, comme on a fait par exemple sur les loyers bloqués dans certaines villes quand ça s'envolait trop. On peut pas aller dire à une entreprise bloquez votre hausse à 15% maximum par mois. On l'a fait pour EDF, pour l'électricité, parce qu'on n'avait pas le choix, parce que les gens étaient impactés directement au quotidien. Mais là, il y a un intermédiaire qui s'appelle l'entreprise, et donc il y a des fusibles qui doivent sauter avant que ça saute sur le consommateur.
Benaouda.
Rien n'est jamais écrit d'avance dans ce secteur, et c'est vraiment dans ce secteur. Deux illustrations parfaites de ce point de vue-là. Le lithium, la terre entière se plaint de ne pas en avoir, et l'Inde en sort au Rajasthan et au Jammu-Cachemire des millions et des millions de tonnes de réserves. Ce qui n'était pas prévu peut-être il y a 6 mois. Vous prenez la gomme arabique qui est exportée par le Soudan, 70% de la gomme arabique dans le monde qu'on utilise dans la confiserie, dans les sodas, dans les médicaments, etc. La guerre au Soudan, on doit faire sans des stocks de gomme arabique, ce qui montre que c'est une matière extrêmement mouvante, une très difficile à cerner, et qui est effectivement prédire à 6 mois, à 3 mois, et je parle sous votre contrôle, ce que va devenir telle ou telle matière première, c'est mission impossible.
Un mot, Benaouda, c'est quand même les 25 ans de la Banque Centrale Européenne. Je ne sais pas si vous avez reçu votre carton pour la soirée ce soir, mais en tout cas, comment est appréhendée dans le monde la Banque Centrale Européenne au bout de 25 ans? Est-ce que c'est un succès?
Si l'on voit par le prisme de ceux qui veulent y entrer, incontestablement, la Croatie est entrée en 2023, la Bulgarie veut y entrer en 2024, la Roumanie en 2025, et de ce point de vue-là, faire tenir des cultures aussi disparate que celle qui compose le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. De ce strict point de vue culturel, c'est déjà une réussite. Mais il y a un entretien très intéressant dans le Handelsblatt, le quotidien économique allemand, aujourd'hui donné par un des piliers de cette histoire qui est Jean-Claude Trichet. Et il reconnaît d'une certaine façon que la BCE a de moins en moins prise sur les fondamentaux de ce qui est en train de se dérouler. Il donne notamment le fait que la mondialisation, par sa décorrélation, ne permet plus de cerner des chaînes de valeur mondiales de grande envergure, que la restructuration de l'économie respectueuse du climat signifie qu'il y a d'énormes besoins d'investissement et que le coût du capital augmente tout comme les prix, et cela non plus, ça ne dépense pas de la Banque Centrale Européenne. De ce point de vue-là, la BCE peut-être agit davantage a posteriori, voire comme un commentateur, comme un acteur sur les enjeux fondamentaux de ce qui fait l'euro de ces 25 dernières années.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre avec nous ce matin.